Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, comme tous les mois, on est très heureux de voir notre amphi complet et de voir tout le monde, toutes ces personnes chez nous. Et bienvenue également aux personnes qui nous suivent sur YouTube. C'est diffusé en direct et puis c'est diffusé par la suite également en revisionnage. Donc, pour cette conférence mensuelle de l'Institut d'astrophysique de Paris, donc tout d'abord, une petite nouvelle sur notre institut. Figurez-vous qu'il y a un mois, nous avons changé de directeur. Et donc, nous avons un nouveau directeur, Patrick Peter. Et Patrick a proposé de donner quelques mots d'introduction à cette conférence. Donc, je t'en prie.
Merci. Bonsoir. Alors oui, effectivement, je suis le nouveau directeur. Et donc, je voulais profiter de cette occasion, d'abord pour remercier Guillaume, Audrey, Fred, Jean et Florence, tous ces gens qui organisent cet événement mensuel qui est très très important pour nous. L'IAP, c'est un laboratoire important qui fait de la bonne astrophysique, qui fait de la bonne recherche. Mais dans tous les laboratoires, ce qui est important, ce n'est pas que de faire de la bonne recherche, c'est aussi de la diffuser. Donc on est vraiment très heureux d'avoir cet événement organisé tous les mois. Et c'est pour ça que ça s'appelle bien les conférences de l'IAP et non pas des conférences à l'IAP. Donc c'est très différent. Et puis la deuxième raison pour laquelle je voulais être là, c'est que je voulais assister à cet exposé de Vanessa, donc je suis sûr que ce sera très intéressant. Et donc je me suis ravi de t'accueillir et je te rends la parole. Merci.
Merci Patrick. Alors juste avant de présenter Vanessa, je donne un petit mot sur notre prochain programme, nos futures conférences. Donc le mois prochain, le 5 mars, nous recevrons Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018, qui est enseignant à l'École Polytechnique, qui nous présentera une conférence intitulée « Le laser ultra-dense et ses applications en astrophysique et cosmologie ». Donc les inscriptions pour cette conférence, c'est à partir de demain matin. Le 2 avril, nous recevrons notre collègue Florent Leclerc. Florent est chercheur ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il nous présentera une conférence intitulée « L'énergie noire et intelligence artificielle ». Et le 7 mai 2024, nous recevrons Michel Mayor, prix Nobel de physique 2019, lui de l'Observatoire de Genève, et Michel Mayor, il nous parlera d'exoplanètes. Et la dernière conférence de l'année sera donnée par Arnaud Cassan, qui est lui aussi un collègue de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui nous parlera de la vie ailleurs. Et la suite, vous pourrez voir sur notre page web. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Vanessa Hill. Vanessa est directrice de recherche au CNRS. Tu travailles à l'Observatoire de la Côte d'Azur, dont tu as été directrice adjointe jusqu'à il y a peu. Au préalable, tu as travaillé à l'Observatoire de Paris à Meudon, dans le laboratoire GEPI, à l'ESO, l'Observatoire européen austral. Tu as travaillé également au Brésil. Tes sujets d'étude, c'est la physique stellaire, la physique galactique, notamment tu travailles sur les anciennes étoiles, les vieilles étoiles, dont tu parleras ce soir et qui nous informent justement sur l'histoire de la galaxie. Tu utilises beaucoup le satellite Gaïa, dont je crois que tu vas nous parler aussi ce soir beaucoup. Et donc, au sujet d'instruments, tu es très impliqué également dans l'instrumentation, notamment dans le développement de spectroscopes dans différents observatoires au sol. Notamment, tu as travaillé sur le spectroscope UVS au Very Large Telescope. Je m'en souviens bien, parce qu'on a eu l'occasion de s'en rencontrer il y a longtemps à ce sujet-là. C'est un très bon souvenir. Tu es très impliqué dans la préparation de l'Extremely Large Telescope, le ELT, un télescope géant de 40 mètres actuellement en préparation et même en construction. La construction a démarré au Chili par l'Observatoire européen Estral. Tu es impliqué également dans le spectroscope WEV qui est en train d'être installé au William Herschel Télescope aux Canaries. Donc, tous ces instruments-là, tu es très impliqué dedans. Également, tu es membre du conseil scientifique du CNRS. Le CNRS, l'institut qui l'une de nos deux co-tutelles ici à l'IAP avec Sorbonne Université. Et donc aujourd'hui, tu nous présente une conférence intitulée « Étoiles primitives, traces fossiles des origines de notre Voie lactée ». Donc, tu vas nous présenter ça. À la suite de la conférence, dans le public, vous pourrez poser quelques questions, faire des commentaires. Et la même chose pour les personnes qui nous suivent sur YouTube. N'hésitez pas à indiquer des commentaires, à poser des questions sur le chat et j'essaierai de te les retranscrire à la fin. Voilà, je t'en prie.
Bonsoir à tous. Merci beaucoup de cette invitation. En effet, les conférences de l'IAP sont des événements qui sont très importants dans la vie, pas que, je pense, du laboratoire IAP, mais de manière générale dans la diffusion de l'astrophysique au grand public en France. Ça fait partie des rendez-vous qui comptent. Et donc, je suis très heureuse d'être ici. Et puis après toute la brosse à reluire de Guillaume, je pense que je vais pouvoir attaquer directement dans le vif du sujet. Donc en effet, je m'intéresse aux étoiles primitives, des étoiles qui sont nées très très tôt dans la vie de l'univers et qu'on essaie de repérer et d'utiliser pour comprendre comment notre Voie lactée s'est formée. Oui, ça marche. Dans notre vision de l'évolution de l'univers, de la formation et l'évolution de l'univers, après le Big Bang et puis une phase très courte du début de l'univers où la matière n'est pas encore assemblée sous forme de matière, au bout d'environ 400 millions d'années à peu près, les premières structures qui vont donner les galaxies et la structuration de l'univers qu'on connaît aujourd'hui commencent à se former. En fait, elles commencent à se former à partir des graines qui sont... Alors, il faut que j'essaye de faire ça avec... je sens que ça va être compliqué de le faire avec le curseur plutôt qu'en vrai. Donc, elles se forment à partir des inhomogénéités de température qu'on voit dans la carte du rayonnement fossile de l'univers. Et à partir de ces toutes petites inhomogénéités de température et de densité, les premières structures vont donc commencer à se former. Et donc, en fait, à ces époques primitives se forment les premières étoiles et les premières galaxies. Et puis ensuite, pendant 13 et quelques milliards d'années, l'univers est en expansion et ces structures et ces galaxies continuent à se façonner les unes les autres pour former ce qu'on voit aujourd'hui, qui serait au bout de cette espèce de tube qui représente une espèce de petite tranche d'univers, on pourrait dire. Et donc notre temps d'aujourd'hui serait ici, avec des galaxies telles que nous les connaissons, avec des galaxies qui ont des formes de spirales, d'autres qui ont des formes de patatoïdes, etc. Et toute cette structuration, en fait, c'est ce qu'on appelle la formation des galaxies. Et la manière dont on pense qu'elles se forment, c'est qu'elles se forment hiérarchiquement. C'est-à-dire qu'ici, sur la gauche, le petit film qu'on voit, c'est une petite tranche d'univers où on voit progressivement en fait, que les points qui étaient déjà un tout petit peu plus surdenses deviennent de plus en plus denses et accrètent de plus en plus des petites sous-structures. Donc en fait, on appelle ça la formation hiérarchique des galaxies, c'est-à-dire qu'on forme des petites sous-structures qui s'assemblent pour faire des structures plus grosses. Et au cœur de ces endroits les plus denses de la matière vont être les galaxies les plus grosses. Et on voit à droite ici un exemple d'une simulation toujours de comment on pense que notre galaxie a pu se former. Et on voit qu'il reste des traces. Donc ça, ici, ça serait autant présent, c'est-à-dire une galaxie qui aurait été formée dans un de ces centres de masse qu'on voit ici comme des points brillants à gauche, tout au long des 13 milliards d'années d'évolution. Et ce qu'on voit en fait ici, c'est que dans les parties centrales où il y a beaucoup de densité, c'est là où on voit le principal de la lumière des galaxies, et on voit en fait toutes sortes de structures autour de cette partie la plus dense. Et ces structures, qu'on appelle aussi souvent des courants, sont les traces des accrétions des plus petites galaxies qui se sont mélangées pour faire la galaxie centrale ici, qui est censée représenter quelque chose qui ressemble à la Voie lactée. Donc pour continuer un peu sur qu'est-ce que c'est que notre Voie lactée, je vous propose un petit film qui a été fait par l'agence spatiale européenne ESA pour mettre en valeur les observations du satellite Gaïa qui observe 1,8 milliard d'étoiles de notre galaxie et qui en mesure les positions et les vitesses individuelles. Donc dans ce petit voyage, en fait, on commence dans les parties les plus centrales de la Voie lactée. Donc ici, on voit les étoiles qui orbitent autour de ces parties les plus centrales où réside le trou noir qui réside au centre de notre Voie lactée. Et vous voyez l'échelle ici, on parle d'une échelle qui représente à peu près 10 jours-lumière. Et puis peu à peu, on va s'éloigner du centre de la Voie lactée. On s'éloigne donc du trou noir et on entre dans les parties où ce sont donc les étoiles qui dominent la constitution de notre Voie lactée. Vous voyez que l'échelle devient de plus en plus petite. Donc on parle, on voit se former donc ce qui est une galaxie, notre galaxie, avec donc au centre, autour du trou noir central, ce qu'on appelle le bulbe galactique. Et puis là, on est dans la partie qui ressemble à un disque de notre Voie lactée. On est en train de s'éloigner toujours du centre. Et on va finir par voir notre galaxie comme si on avait pu en sortir et qu'on la voyait par la tranche. Et donc notre galaxie, c'est ce qu'on appelle une galaxie à disque, puisqu'elle a un plan dans lequel des étoiles orbitent autour des parties centrales qui est un disque. Et puis, autour, il y a des étoiles qui orbitent avec, de manière plus désordonnée, qu'on appelle le halo galactique. Et vous voyez que la taille typique, c'est de l'ordre de 100 000 années-lumière. On va de nouveau re-rentrer dans la Voie lactée, et à la place de la regarder par la tranche, on va se mettre à la regarder par-dessus. Et c'est là qu'on va voir réellement que, effectivement, c'est une galaxie qu'on appelle une galaxie à disque, avec les parties, le disque de gaz et d'étoiles qui est parcouru par des bras spiraux. Et vous voyez ici la position que le Soleil occupe dans cette galaxie qui est devenue un peu imaginaire à ce stade, parce qu'on n'est quand même pas capable de sortir de la Voie lactée, hein, je vous rassure. Vous voyez en rouge ici s'afficher en fait la partie de la Voie lactée que le satellite Gaïa sonde en regardant donc les positions et vitesses des étoiles individuelles. Donc en résumé, notre galaxie, c'est donc une galaxie à disque avec des bras spiraux qu'on voit sur la gauche vue par-dessus et sur la droite vue par la tranche. En tout, elle contient de l'ordre de 100 à 400 milliards d'étoiles. Elle est composée, pour tout ce qui est de la matière visible, d'étoiles, de gaz et de poussière. En fait, la masse, c'est surtout des étoiles avec de l'ordre de 10% de gaz et de poussière. Et puis, cohabite avec cette matière visible aussi de la matière non visible, donc, dont on ne connaît l'existence que grâce à son effet gravitationnel, c'est-à-dire que la gravitation, le potentiel de gravitation de notre Voie lactée est plus élevé que ce qui correspondrait à la masse qu'on voit de manière lumineuse. Et elle est plus élevée par un facteur de l'ordre de 20 à peu près. Donc, notre galaxie est quand même, pour toute sa partie visible, elle est surtout constituée d'étoiles. Et en fait, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, vous savez bien, surtout si vous avez eu le plaisir de sortir le soir en dehors de Paris pour contempler un ciel, j'espère, avec la Voie lactée, et même sans la Voie lactée, juste les étoiles les plus brillantes que vous pouvez contempler, vous vous êtes déjà rendu compte que les étoiles ne brillent pas toutes avec la même coloration. Il y a des étoiles qui paraissent un peu plus bleutées, d'autres un peu plus rouges. Et ici, je vous ai mis l'exemple de la constellation d'Orion. On voit que les trois étoiles les plus brillantes, Bételgeuse, Rigel et Bellatrix, n'ont pas la même couleur. En fait, Bételgeuse brille plutôt un peu plus rougeacé, alors que Rigel brille franchement plus bleuté. Et si on regarde avec un télescope un coin au hasard du ciel de manière beaucoup plus profonde en voyant des étoiles beaucoup moins brillantes, on se rend compte que là aussi, toutes les étoiles n'ont pas la même couleur. Alors en fait, depuis très très longtemps, les astronomes, depuis plus d'un siècle, hein, les astronomes ont appris à ranger les étoiles dans un espace où on comprend à quoi sont dues les caractéristiques principales des étoiles. C'est ce qu'on appelle le diagramme Hertzsprung-Russell. En fait, c'est simplement, on classe en fait la couleur des étoiles dans l'axe horizontal la luminosité intrinsèque des étoiles dans l'axe vertical. Et en fait, on se rend compte que l'immense majorité des étoiles se rangent dans cette espèce de diagonale, ici, qui s'appelle donc la séquence principale parce que c'est là où la plupart des étoiles se rangent. Et dans cette séquence, en fait, plus on est rouge, plus on est froid, plus on est bleu, plus on est chaud, et il y a une relation directe entre la température et la luminosité des étoiles. Donc les étoiles qui sont chaudes brillent très fort, les étoiles qui sont froides brillent moins fort. Et en fait, la raison de ça, c'est lié à la nature même des étoiles. Donc une étoile, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros une boule de gaz qui est à l'équilibre entre les forces de la gravité qui veulent qu'elle s'effondre sur elle-même et les forces de pression, en particulier la pression de radiation, qui résistent à cet effondrement. D'ailleurs, un petit crochet par l'histoire. Jusqu'en 1920, il y avait un gros problème sur la compréhension de pour combien de temps une étoile pouvait briller. En fait, jusqu'à Eddington en 1920, la théorie qui prévalait, c'était que c'était simplement cet équilibre entre la gravité et la pression qui faisait que petit à petit, les étoiles se refroidissaient et perdaient de l'énergie et qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus d'énergie suffisante pour briller et donc l'étoile mourait. Et les temps de vie des étoiles étaient estimés à 20 millions d'années au maximum. Ça, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. Seulement, au même moment, il y a la théorie de l'évolution, il y a beaucoup de choses sur la géologie aussi qui font comprendre aux gens que 20 millions d'années, c'est pas possible c'est pas possible que le système solaire soit si jeune. Et donc, Eddington propose pour la première fois qu'en fait, ce qui donne la longévité à une étoile, c'est ce qui se passe en son cœur. Et ce qui se passe en son cœur, c'est des réactions nucléaires, des réactions thermonucléaires qui produisent de l'énergie et qui entretiennent l'énergie dans les étoiles qu'elles peuvent ensuite irradier. Donc ce qui se passe dans la plupart des étoiles qui sont donc sur cette fameuse diagonale de la séquence principale, c'est qu'au centre de l'étoile, l'hydrogène brûle, c'est-à-dire que les atomes d'hydrogène réagissent avec des réactions thermonucléaires pour fabriquer de l'hélium, et cette réaction-là, elle produit l'énergie. Alors en fait, ce qui se passe exactement dans la structure de l'étoile dépend de la masse de l'étoile. En fait, dans ce diagramme, ce qui détermine si une étoile est bleue ou rouge, en fait, le paramètre sous-jacent, c'est celui de la masse. C'est-à-dire qu'une étoile de petite masse va être rouge et peu lumineuse, et une étoile de grande masse va être bleue et très lumineuse. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, et pourquoi j'ai fait ce petit détour, c'est parce que le temps de vie des étoiles dépend donc de la ressource en énergie qu'elles ont. Et il se trouve que donc plus une étoile est chaude, plus les réactions nucléaires au centre sont efficaces, donc elle va briller fort, mais elle va briller pas très longtemps parce qu'elle va brûler ses réserves de carburant, on peut dire, plus rapidement. Et donc, en fait, une étoile comme notre Soleil, on s'attend à ce qu'elle vive 10 milliards d'années, alors qu'une étoile comme une des deux étoiles bleues qu'on voyait dans Orion tout à l'heure, Bellatrix, qui a une masse d'environ pas tout à fait 10 fois celle du Soleil, elle ne vivra que 37 millions d'années. Donc extrêmement court à l'échelle de l'évolution de l'univers dont on parlait tout à l'heure, de 13 milliards d'années. Mais si on va de l'autre côté, si on regarde des étoiles qui sont encore un petit peu plus petites que le Soleil, elles vont vivre encore plus longtemps que le Soleil. Par exemple, si je calcule pour une étoile qui a 70% de la masse du Soleil, je vais m'apercevoir qu'elle est censée vivre une vingtaine de milliards d'années. Mais l'univers est né il y a 13,5 milliards d'années. Donc la conclusion de tout ça, c'est que s'il y a des étoiles de toute petite masse qui se sont formées au moment de la formation des premières structures, des premières étoiles, des premières galaxies, elles sont encore vivantes sous forme d'étoiles aujourd'hui. Et donc, en fait, on va résumer notre problème en se demandant, en se disant que donc, les étoiles qui sont formées dans ces phases primitives de la vie de l'univers, des étoiles de petite masse, elles sont encore là aujourd'hui dans les galaxies, d'aujourd'hui, elles doivent toujours être encore là et on doit pouvoir les repérer. Et ce sont des témoins très précieux des conditions aux moments les plus primitifs de l'univers. Alors, il y a plusieurs façons d'essayer de les observer, ces premières étoiles. On peut essayer d'aller les observer il y a 13,5 milliards d'années en se servant du fait que la lumière met un temps fini pour parcourir, à une vitesse finie. Donc plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde loin dans le passé. C'est la tâche en particulier du James Webb télescope et de l'ELT bientôt, l'Extremely Large Telescope des Européens. On peut aussi se servir du fait que les toutes petites étoiles sont encore là pour les chercher dans notre galaxie, juste à côté de chez nous. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va les chercher dans les galaxies, aujourd'hui, dans notre galaxie par exemple, ou dans les galaxies proches de la nôtre, et on va essayer de trouver ces étoiles de petite masse. Malheureusement, les étoiles, elles n'ont pas un petit signe sur la tête qui dit « j'ai 13 milliards d'années, wouhou, regarde-moi ». Des étoiles de petite masse, il y en a qui sont nées à toutes les époques, a priori. Et donc, ce n'est pas facile de savoir lesquelles, comment les repérer. Donc, c'est la question qui se pose, comment est-ce qu'on va les repérer ? Et pour identifier donc, ces étoiles, je vais faire encore un petit détour, de nouveau vers l'évolution stellaire. En fait, ces étoiles de masses différentes, une fois qu'elles ont passé le plus clair de leur vie sur la séquence principale, elles vont toutes finir leur vie sous des formes diverses et variées, mais qui toutes, à un moment ou un autre, vont réexpulser de la matière qui était dans l'étoile, en dehors de l'étoile, et éventuellement dans le gaz qui les entoure. Et ces phases d'expulsion de gaz, elles vont pouvoir rendre au milieu interstellaire, au gaz, des éléments qui ont été nouvellement synthétisés dans les étoiles. Donc ces réactions nucléaires qui se sont passées au cœur des étoiles, dans les événements de fin de vie des étoiles de diverses masses, vont se retrouver de nouveau disponibles dans le gaz et enrichir en éléments le gaz d'une galaxie. Et donc, en fait, on peut voir que les galaxies, au cours du temps, en fait, elles s'enrichissent, puisque dans le disque d'une galaxie où il y a du gaz, on va former des nouvelles étoiles à partir de ce gaz. Ces étoiles vont évoluer. À la fin de leur vie, elles vont remettre dans le milieu interstellaire tous les éléments qu'elles ont formés, qui seront disponibles pour former la génération suivante d'étoiles. Ce qui fait que la composition du gaz d'une galaxie et la composition généralement de l'univers s'enrichit au cours du temps de différents éléments qui sont fabriqués par les étoiles. Et en fait, suivant leur masse, les étoiles, cette fin de vie, elle est plus ou moins violente. Elle se passe dans des conditions qui sont plus ou moins de haute température, de haute pression. Et les éléments qu'elles fabriquent sont différents. Par exemple, si je regarde une étoile qui a une dizaine de fois la masse solaire, par exemple, elle va finir sous forme d'explosion et laisser un petit rémanent, soit sous forme d'étoile à neutrons, soit sous forme de trou noir. Et la majorité de sa masse va être dispersée et contient des éléments qui sont formés jusqu'à peu près des éléments aussi lourds que le fer. Si je prends au contraire une étoile de petite masse qui va finir sa vie sous forme de naine blanche, elle va passer par une phase où elle expulse une partie de son enveloppe, où elle aura fabriqué en fait essentiellement du carbone et guère plus. Ce qui fait qu'on peut reprendre la table de Mendeleïev que je vous montrais tout à l'heure avec des jolis petits symboles, mais cette fois en la coloriant de manière complètement différente. Cette fois-ci, je l'ai colorié suivant d'où viennent les éléments dans les étoiles ou d'où viennent les éléments dans l'univers. Donc, au moment de la formation des toutes premières structures, a priori, on a la composition chimique qui nous a été laissée par la nucléosynthèse primordiale du Big Bang. Et c'est uniquement ce qui est ici en bleu, c'est-à-dire l'hydrogène d'un côté, l'hélium de l'autre, une toute petite diagonale de lithium au milieu et rien d'autre. Donc quand je parle de chercher des étoiles primitives qui seraient vraiment les premières étoiles, a priori, je cherche des étoiles qui auraient pour composition chimique juste hydrogène et hélium. Tout le reste de ce tableau est coloré de manière, d'autres manières qui viennent d'autres types d'étoiles. Donc par exemple, tout ce que vous voyez ici en vert, ce sont les étoiles qui exposent sous forme de supernovae dont je viens de vous parler, des étoiles relativement massives. Ce qui est ici coloré, par exemple, en jaune, c'est les vents des étoiles de masse modérée. Donc on va résumer notre problème à, on sait ce qu'on cherche. On cherche des étoiles qui auraient la composition chimique du Big Bang. Alors, je peux vous dire tout de suite le résultat de toute la conférence. Ça fait plus de 50 ans qu'on cherche, on n'en a jamais trouvé. Et en fait, on pense qu'on sait pourquoi. C'est parce que ces toutes premières étoiles, elles se sont formées donc dans un gaz qui contient que de l'hydrogène, de l'hélium et une toute petite trace de lithium. Et en fait, au moment de la formation des étoiles, il se trouve que quand les premières phases où le nuage de gaz doit s'effondrer pour fabriquer une proto-étoile puis une étoile, s'il n'y a aucun autre élément chimique qui permet d'évacuer l'énergie sous forme de rayonnement, c'est beaucoup plus difficile qu'elle se forme. Et donc en fait, on pense que la toute première génération d'étoiles n'a pu se former qu'à partir de nuages de gaz très gros pour former des étoiles très grosses. Les étoiles très grosses, ça ne vit pas longtemps, on ne les voit plus. Donc en fait, ce qu'on va chercher, ce n'est pas ces étoiles très grosses qui ont toutes disparu. Enfin, peut-être avec JWST, on pourra les chercher, mais nous, on ne va pas chercher ça. On va chercher les étoiles de deuxième génération. Donc celles qui sont venues juste après, celles qui ont profité des éléments qui ont été expulsés par ces très grosses premières étoiles pour pouvoir former des étoiles de toute masse, y compris celles de petite masse qui sont encore chez nous. Enfin, qui devraient être encore autour du Soleil, dans la Voie lactée, quelque part. Donc ce qu'on appelle des étoiles comme ça, qui seraient de deuxième génération, on va les appeler maintenant les étoiles très, très, très pauvres en métaux, ou primitives, et elles sont définies en général comme tout ce qui a moins d'éléments autres que hydrogène, hélium, lithium, qu'un millième de la composition du système solaire. Et donc ce sont des témoins de l'univers primordial, et elles nous intéressent. Alors si on regarde s'il y en a beaucoup de ces étoiles-là, on se rend compte qu'en fait elles sont hyper rares. Donc elles n'ont pas une étiquette qui dise « je suis vieille », elles sont très très rares, donc il va falloir se bouger un petit peu pour arriver à les trouver. Donc ce que vous voyez ici, c'est la proportion d'étoiles en fonction, c'est une échelle logarithmique en x, donc tout à droite c'est la proportion d'étoiles qui aurait un contenu en métaux moins que 1000 fois celui du Soleil. Et vous voyez que si on en avait 10 des comme ça, et ben alors, celles qui seraient à moins 4, c'est-à-dire un 10 millième de la composition du Soleil, et ben il n'y en aurait que, si j'en avais 10, il y en aurait peut-être une ou deux. Alors parce que les astronomes sont parfois un peu facétieux et qu'ils aiment beaucoup mettre beaucoup de jargon partout, on a mis toutes sortes de mots jolis pour désigner ces étoiles. Donc quand on est qu'on a moins de métaux qu'un dixième du Soleil, on appelle ça des étoiles qui sont pauvres en métaux. Quand on est 100 fois de moins, on dit qu'on est très pauvre en métaux. 1000 fois moins, extrêmement pauvre en métaux. 10 000 fois moins, ultra pauvre en métaux. Et un millionième de la métallicité solaire, on appelle ça des étoiles méga metal poor. Ça me ressemble un peu au Mac, Big Mac, méga Big Mac. C'est le même principe. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour les repérer? On a à notre disposition un outil qui est formidable, c'est le spectre électromagnétique d'une étoile. Donc, si je prends la lumière du Soleil, par exemple, et que je la fais passer à travers un prisme ou quelque chose qui va décomposer la lumière en fonction de sa fréquence ou en fonction de sa longueur d'onde ou en fonction de sa couleur, je vais obtenir quelque chose qui ressemble à l'arc-en-ciel que vous voyez ici. Donc c'est rangé par couleur, puisque ça dépend de la fréquence de la lumière. Et ce que vous voyez, c'est que ces couleurs, elles sont traversées par des bandes qui sont sombres. En fait, ces bandes qui sont sombres correspondent à des fréquences ou des longueurs d'onde de la lumière très particulières, où un atome d'un élément donné absorbe la lumière. Donc au lieu de recevoir la lumière du Soleil, à cet endroit-là, je ne la reçois pas parce qu'elle elle a été absorbée par les atomes de cet élément dans le Soleil. Il ne faut pas que je me rapproche du truc qui fait du Larsen. Alors maintenant, si je trace l'intensité que j'ai reçue de ce spectre lumineux en fonction de la longueur d'onde de la lumière, je vais voir que si mon arc-en-ciel n'était pas traversé de noir, j'aurais quelque chose de plat. Et je vois qu'il y a des endroits où il me manque de la lumière. Donc chacune de ces espèces de petits pics vers le bas représente un manque de lumière, on appelle ça des raies d'absorption. Et quand on mesure combien de lumière il manque, on peut à partir de ça remonter directement à combien d'atomes de cet élément-là il y avait dans le Soleil. Donc je vous montre par exemple ici, il me faut mes lunettes pour ne pas vous dire de bêtises, par exemple ici on voit le doublé du sodium, que ceux d'entre vous qui ont vu de l'éclairage public avant les LED doivent reconnaître, qui est dans le jaune ici. Donc c'est des raies qui sont dues à l'atome de sodium et qui absorbent dans le soleil. Donc à partir de ce qui manque de lumière ici, je peux déterminer combien est-ce qu'il y a d'atomes de sodium dans le soleil. Et en fait, donc, on va chercher des étoiles pour lesquelles ce spectre électromagnétique, eh ben, il a le moins d'absorption possible, puisque ces absorptions sont dues aux éléments chimiques. Donc en gros, si je regarde, là maintenant c'est des zooms de toujours la même chose, c'est-à-dire l'intensité que je reçois en fonction de la longueur d'onde de la lumière. Et donc si j'avais trouvé une étoile où il n'y ait que de l'hydrogène et de l'hélium, en principe je n'aurais que des signatures de l'hydrogène ou de l'hélium dans ces spectres, et aucune de ces raies que vous voyez ici identifiées comme du fer, du calcium, etc. Et donc l'exemple que je vous donne ici, c'est une étoile qui a 1000 fois de moins de métaux que le Soleil. Alors ce qu'on a fait, c'est que faire des spectres individuels de milliards d'étoiles ou de millions d'étoiles dans la galaxie, c'est très coûteux en termes de temps d'observation, de taille de télescope, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé en fait le ciel à travers un filtre qu'on a fabriqué pour ne regarder spécifiquement qu'à un endroit où il y a une absorption par des métaux très très fortes. Donc en fait, on intègre la lumière, on regarde à travers un filtre qui est autour de ces deux raies qui sont des raies du calcium. Et ce que vous voyez ici, c'est que les différentes couleurs correspondent à des spectres, donc l'intensité reçue en fonction de la métallicité de l'étoile. Donc une étoile comme le Soleil, ça ferait quelque chose comme le rouge foncé que vous voyez ici. Une étoile 1000 fois plus pauvre en métaux que le Soleil, ça ferait quelque chose comme ce spectre ici en bleu. Et donc si j'intègre ça dans mon filtre, je vois que mon étoile pauvre en métaux, elle va apparaître plus brillante, parce qu'elle a moins d'absorption, que mon étoile pauvre en métaux, donc est plus brillante que mon étoile qui est avec une métallicité qui est celle du Soleil. Donc on a utilisé cette technique, qu'on a appelée le relevé Pristine, qui est un relevé franco-canadien. On a commencé à faire ça avec le télescope Franco-Canada-France-Hawaï, comme son nom l'indique, sur l'île de Hawaï, qui est un télescope de 4 mètres, à plus de 4000 mètres d'altitude, qui permet de voir facilement à travers l'atmosphère, même dans les longueurs d'onde bleue. Et on a en fait cartographié toute cette partie du ciel. Donc les cartes que je vous montre ici et que je vais vous montrer aussi dans la suite, c'est des cartes qui sont en coordonnées galactiques, c'est-à-dire que c'est comme un planisphère, mais où on verrait en fait, on est dans une position où le centre de la galaxie est au centre ici. Le disque est ici, et ça c'est toutes les parties qui sont en dehors du disque. Donc on a commencé par faire ça avec ce relevé-là, et puis on s'est servi aussi du satellite Gaïa, qui a embarqué ce qu'on appelle la spectrophotométrie, qui nous permet de reproduire le même filtre pour chercher les étoiles pauvres en métaux. Je passe sur la technique qu'on utilise exactement pour mesurer la métallicité des étoiles sans avoir leur spectre, mais avec ce filtre à bande étroite. En gros, le principe, c'est qu'on place les étoiles dans un diagramme comme celui-ci, où d'un côté, on met la couleur générale des étoiles, et sur l'axe des Y, on met une couleur qui dépend de ce fameux filtre, qui est très dépendant en la métallicité. Et vous voyez ici, en fait, les étoiles qui ont vraiment été observées, pour lesquelles on avait aussi de la spectroscopie, on avait pu mesurer précisément leur composition chimique, et on voit qu'effectivement, les étoiles s'alignent avec... un joli dégradé qui fait qu'on peut, avec ce type de diagramme, on peut sélectionner les étoiles qui sont les plus primitives, les plus déficientes en métaux. Alors en fait, je vais vous montrer maintenant quelques résultats. Hein, et ce à quoi on s'attendait, avec les a priori qu'on a sur la formation des galaxies, et sur où devraient se trouver aujourd'hui les étoiles primitives dans la Voie lactée, c'était que, je vous ai montré les traces d'accrétion qu'on voit ici sur la partie gauche. Elles ne sont pas dans les parties centrales de la Voie lactée, ni même dans son disque. Elles sont surtout dans la partie autour de la Voie lactée, où on voit très bien ces traces d'accrétion. Sur la partie droite ici, on voit toujours des simulations, c'est celles qui ont servi à faire celle-ci à la fin. Hein. On voit les parties centrales de la galaxie qui est en train d'accréter d'autres petites galaxies qui sont peintes dans des couleurs différentes pour qu'on voit où les étoiles de ces petites galaxies qui sont accrétées vont arriver. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, il y a beaucoup de ces accrétions qui sont plutôt dans les parties externes. Et il y a une partie qui tombe, par contre, tout au milieu de la Voie lactée, dans la partie du bulbe, donc vraiment dans la partie la plus profonde du potentiel galactique. Mais la plupart de ces traces d'accrétion, en fait, sont dans les parties externes. Alors, avec les cartes qu'on a pu faire grâce à notre relevé, qu'on a maintenant divisé par, grâce à la mesure de la métallicité des étoiles, bien, on retrouve bien que, en effet, proche du disque galactique, donc on est toujours en coordonnées galactiques où le disque est ici et le halo est dans les parties à haute latitude, quand je regarde des étoiles qui sont jeunes et relativement riches en métaux, bien, je trouve qu'elles sont surtout dans le disque de notre galaxie. C'est normal, le disque de la galaxie, c'est là où il y a le plus de gaz, donc c'est là où il y a eu beaucoup de générations d'étoiles depuis le début de l'existence de ce disque, et donc la métallicité est devenue forte dans ces parties du disque galactique. C'est les parties les plus évoluées, on pourrait dire, de notre Voie lactée, celles qui ont vécu le plus longtemps, qui ont incorporé le plus de générations d'étoiles dans leur composition. Et puis plus je m'éloigne, plus je regarde les étoiles qui sont pauvres en métaux, ici j'ai des étoiles qui sont au centième de la métallicité solaire et ici au millième de la métallicité solaire, plus je me rends compte que, ben oui, il y a quelques étoiles qui sont tout à fait au centre du potentiel galactique, mais la plupart se passent au-dessus. En revanche, ce dont on s'est aperçu en regardant de plus près les échantillons d'étoiles très pauvres en métaux, c'est que même si elles ne sont pas forcément toutes dans le plan de la galaxie, eh ben, ma foi, elles tournent. Il y en a un certain nombre qui tournent comme le disque de notre galaxie. Et ça, ça nous a beaucoup surpris parce que ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc ce qu'on voit ici dans ce graphique, c'est dans l'axe des X, là, c'est la métallicité des étoiles. Donc ici, c'est ça serait la métallicité du Soleil et ici, c'est les étoiles les plus pauvres en métaux. Et ici, c'est la vitesse de rotation autour de la galaxie. Donc ce à quoi on s'attend, c'est que la plupart des étoiles riches tournent vite, ici, et que les étoiles pauvres, ben, ma foi, elles tournent un peu n'importe comment autour de la Voie lactée. Il ne doit pas y en avoir qui tournent plus dans un sens que dans l'autre, puisqu'elles ne sont pas dans le plan. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que même aux plus fortes métallicités, il y a une extension de cette séquence d'étoiles qui tournent trop vite. Et ça se voit aussi quand on regarde les vitesses à deux dimensions. Il y a une asymétrie, en fait, entre il y a trop d'étoiles qui sont proches du plan et qui tournent assez vite. La deuxième chose qu'on a regardée, c'était est-ce qu'on est capable de voir vraiment des traces séparées, des accrétions sur notre Voie lactée. Alors, vous voyez ici toujours la même jolie image à gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a des accrétions comme ça d'une galaxie qui arrive sur la Voie lactée, au début, on va la voir sous forme d'un courant stellaire, comme on voit ici, c'est-à-dire des étoiles qui sont arrachées à leur petite galaxie qui arrive et qui forment un courant qu'on voit spatialement. Et puis en fait, quand on laisse la galaxie se faire déchirer et accréter en tournant plusieurs fois autour de la galaxie haute, ce qui se passe, donc ce qu'on voit ici, c'est la première orbite, ben, on voit encore les étoiles, on voit d'où elles viennent, on voit même le progéniteur qui est en train de se faire déchirer. Et puis si en fait on attend plusieurs orbites, ben, dans le plan spatial, on ne voit plus rien. Par contre, ici c'est des espaces où on regarde les vitesses des étoiles, quel que soit le temps après l'événement d'accrétion, en fait, il y a des signatures qui restent dans les vitesses. Donc, je vous disais que le satellite Gaïa mesure des positions, des distances et des mouvements particuliers, donc des vitesses particulières de 1,8 milliard d'étoiles. Et donc, Gaïa a pu, de manière très efficace, repérer les étoiles qui bougent ensemble, donc ces traces d'accrétion passée. Donc ici, c'est une carte qui montre des accrétions passées qui sont encore relativement bien identifiables spatialement aussi, mais qui ont pu être repérées dans le fond des étoiles qui ne participeraient pas à ces courants d'étoiles grâce à leur mouvement. Et donc vous voyez qu'en fait, on en connaît des dizaines de traces d'accrétion passée sur notre Voie lactée. Donc on sait qu'il y a des dizaines de choses qui sont arrivées, qui se sont fait accréter par notre Voie lactée. Et en fait, ce qu'on a fait avec le relevé Pristine, c'est qu'on s'est servi de l'information en métallicité pour d'une part confirmer que effectivement les courants qu'on voit en vitesse viennent bien d'une galaxie et pas de, que c'est pas des fausses détections, simplement parce qu'on demande que la composition chimique de ces étoiles soit cohérente, et puis pour repérer des courants qui étaient particulièrement amusants pour une raison ou pour une autre. Et parmi ces courants, on a trouvé, alors il n'a pas un joli nom, il s'appelle C19, bon. Mais donc c'est un courant d'étoiles dont, que vous voyez ici spatialement, donc c'est des étoiles qui s'alignent sur une orbite autour de la Voie lactée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que donc les vitesses sont cohérentes, puisque c'est comme ça qu'elles ont été sélectionnées. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a regardé la métallicité de toutes ces étoiles qui appartiennent à ce courant. Et on s'est rendu compte que c'était un courant qui était extrêmement déficient en métaux, 2500 millième de la métallicité solaire seulement, que toutes les étoiles de ce courant ont sensiblement la même métallicité, et qu'en plus, ils ont des signatures chimiques, donc ça, on l'a fait en regardant en plus en détail la composition chimique grâce à de la spectroscopie, qu'ils ont des anomalies chimiques qui sont typiques d'un amas stellaire et non pas d'une galaxie, mais avec une dispersion de vitesse qui met en évidence qu'il y a de la matière noire aussi dans ce système. Et donc, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est que ce machin-là. Soit c'est l'amas stellaire le plus déficient en métaux qu'on ait jamais connu, mais d'un facteur large. Il est 10 fois plus déficient en métaux que l'amas le plus pauvre qu'on connaissait. Soit c'est le reste d'une accrétion d'une galaxie naine dont cet amas stellaire était le noyau. Alors je vous ai dit que les restes d'accrétion laissent des signatures dans la façon dont les étoiles bougent, donc dans leur vitesse. Ici, c'est une autre façon de regarder les vitesses des étoiles, où on regarde dans l'axe des X la vitesse avec laquelle les étoiles tournent autour de la Voie lactée, et dans l'axe des Y, en gros, l'énergie, soit l'énergie totale ici, soit l'énergie perpendiculaire au plan de la Voie lactée. Donc Gaïa, pour la première fois, a permis en fait, de repérer des traces anciennes d'accrétion dans ces espaces purement du mouvement des étoiles de repérer des accrétions. Et grâce à la composition chimique de des étoiles qui viennent de ces accrétions, on est capable de mettre des contraintes fortes en fait, sur quel type de galaxie a été accrétée, en particulier quelle était à quel point est-ce que la formation stellaire dans ces petites galaxies a été vigoureuse, de ce fait, la masse des galaxies accrétées. On peut aussi, une fois qu'on a repéré des ensembles d'étoiles qui viennent ensemble comme ça d'une accrétion, on peut aussi regarder, donc on a regardé leur vitesse, leur composition chimique, on peut aussi regarder leur âge. C'est ce qu'on a fait pour la plus grosse des accrétions récentes que la Voie lactée, enfin récentes entre guillemets, des accrétions que la Voie lactée a subies. En fait, la dernière accrétion majeure que la Voie lactée a subie, cet ensemble d'étoiles ici qu'on voyait aussi ici en rouge et ici. Qui s'appelle, suivant les auteurs, qui s'appelle Encelade, Gaïa Enceladus ou la saucisse. Moi, je préfère Gaïa Enceladus, c'est plus joli. Parce qu'il y a plusieurs auteurs qui clament la paternité de la découverte de cet ensemble d'étoiles qui se trouve la dernière accrétion massive sur la Voie lactée. Et donc, on peut voir ici sur ce petit film, donc l'accrétion de... Je ne sais pas s'il est parti. Oui, il est parti. Non ? Oui. Donc la Gaïa en Céladus est donc une galaxie qui est à peu près le dixième de la masse que la voie lactée faisait il y a 10 milliards d'années. Les étoiles ont donc été complètement mélangées dans la voie lactée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à droite, vous voyez ici ce qui correspond à ce qu'on regardait tout à l'heure, qui était le diagramme température et luminosité des étoiles. Sauf que là, à la place d'être la température, c'est la couleur des étoiles. Et ce que vous voyez, c'est que les étoiles qui viennent d'Encelade ont une distribution de couleur et de luminosité qui est légèrement différente de celle des étoiles de la Voie lactée, qui nous a permis en fait de déterminer que les étoiles d'Encelade en fait ont une métallicité et une distribution en âge légèrement différente de celle de la Voie lactée. Donc j'en arrive à mes conclusions. Je ne sais pas trop où j'en suis, Guillaume, par rapport. Voilà, je peux conclure. Après j'ai un bonus. Voilà, donc je voulais juste conclure par ça. En fait, j'ai essayé de vous montrer en fait que les étoiles primitives, donc pas les toutes premières étoiles, mais les N plus 1, permettent de tracer des événements qui ont eu lieu dans l'univers il y a très très longtemps. En l'occurrence, là, Encelade, ce que je vous montrais, donc l'accrétion date d'il y a au moins 10 milliards d'années. Nous avons actuellement des méthodes pour les repérer parmi les milliards d'étoiles de la Voie lactée. Et grâce à Gaïa, en fait, on est capable d'avoir une réelle image de comment notre galaxie s'est assemblée en termes de la croissance en masse, mais aussi de quelles étaient les petites galaxies qui ont été accrétées par notre Voie lactée et qui se sont dissoutes dedans, qui ont été déchirées complètement et qui sont maintenant dans la Voie lactée. Et je peux vous laisser je ne sais pas, qu'est-ce qui... Bonus ou... Bon, alors bonus, je vais un peu plus loin, hop, s'il veut bien. Il est tout coincé. Hop. Avant de vous laisser avec ce film, mais il ne veut pas. Hein. Non, non, mais c'est pas ça. Non, il ne veut pas. J'avais un petit bonus donc sur une autre chose qui est assez amusante que permettent les étoiles très, très pauvres en métaux, c'est de faire une datation de l'âge de ces étoiles les plus primitives pour avoir une méthode indépendante pour connaître l'âge de l'univers, puisque l'âge de l'univers doit nécessairement être plus grand que celui de l'étoile la plus vieille qu'on trouve. Il se trouve que parmi ces étoiles très déficientes en métaux, on est parfois capable de mesurer la composition précise en thorium et en uranium de ces étoiles. Or, le thorium et l'uranium, surtout l'uranium, je pense que ça doit vous faire tilt, c'est un élément radioactif. Alors, dans ces étoiles-là, l'isotope de l'uranium qu'on mesure, ce n'est pas les isotopes qui sont à durée de vie les plus courtes, c'est l'uranium-238 qui a pour demi-vie 4,5 milliards d'années. Et le thorium, ça a pour demi-vie 14 milliards d'années. Donc c'est des temps de vie caractéristiques qui sont bien adaptés pour essayer de mesurer l'âge de ces objets très très anciens. Donc pour pouvoir mesurer un âge pour faire une datation radioactive, il faut comparer la composition qu'on aurait eue d'uranium dans l'étoile est comparée avec celle d'aujourd'hui pour mesurer la différence et calculer l'âge. Alors, on n'a pas accès directement à quelle était la composition chimique en uranium primordiale de ces étoiles, mais en revanche, l'uranium appartient à un processus qui s'appelle le processus de capture de neutrons rapide, qui produit toutes sortes d'autres éléments qui, eux, sont stables. Donc on va comparer la composition de l'uranium avec ces autres éléments stables pour mesurer des âges. Alors juste pour que vous voyez, je vous montre de nouveau un spectre, c'est-à-dire dans l'axe vertical, c'est l'intensité reçue de l'étoile, et dans l'axe des X, c'est toujours la longueur d'onde. Et en fait, l'arrêt de l'uranium qu'on mesure, j'ai perdu mon curseur, mais ah voilà, il est là, c'est celle-ci. Donc vous voyez que c'est quelque chose de tout petit, 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 petit. Mais on est quand même capable, avec des spectres, avec un très très bon signal et une résolution, donc une capacité à séparer les longueurs d'onde les unes des autres extrêmement forte, à mesurer cette abondance. Et en fait, donc, quand on compare l'abondance de l'uranium pour ces deux étoiles pour lesquelles on connaît la composition, on mesure la composition en uranium, et ben on tombe sur un âge de 13,7 milliards d'années, plus ou moins 4 milliards d'années. Je vous accorde que ce n'est pas une méthode très, très, très précise. Mais en revanche, c'est une méthode qui est complètement indépendante des méthodes cosmologiques, et c'est ça qu'elle a d'amusant et d'intéressant. Et du coup, pendant les questions, je vous laisse avec ce joli petit film, cette fois-ci, qui est un film qui a été réalisé à partir de... toujours des données du satellite Gaïa. Et en fait, le satellite Gaïa possède en son bord non seulement des instruments pour mesurer des positions, mais il possède aussi un spectrographe qui mesure les vitesses et des compositions chimiques d'étoiles. Et donc, cette fois-ci, c'est toujours un voyage dans la Voie lactée, mais cette fois-ci, vous voyez que les points sont colorés, et en fait, ils sont colorés d'après leur contenu en métaux. Donc, c'est un très joli film à regarder pour se persuader qu'on comprend de mieux en mieux les mystères de la Voie lactée, ou en tout cas, on a beaucoup d'informations pour essayer de les résoudre.
Eh bien, merci beaucoup Vanessa pour cette présentation. Alors, il y a eu plein de commentaires sur Internet. Je vais donner la parole aussi à l'amphithéâtre s'il y a des questions, des commentaires. Peut-être juste pour commencer, figure-toi qu'il y a un de tes anciens camarades de DEA, de Master 2, on dirait maintenant, qui suit cette conférence et qui est très content de te revoir. On a des commentaires d'Allemagne, de Bulgarie. Alors, je vais commencer par une question sur Internet. Tu as un petit peu répondu là et... tu as donné quelques éléments de réponse avec l'uranium, puis avant, il y a une question qui dit le spectre va détecter le composant, mais pas la quantité, je suppose. Alors si justement on mesure la quantité, est-ce que tu peux revenir un peu dessus pour donner quelques éléments pour mieux comprendre ça ?
Oui, je pense que le secret, c'est bien ça, c'est quantitatif, puisque ce qu'on mesure, c'est le manque de flux reçu, reçu de l'étoile à une longueur d'onde particulière qui correspond à un élément particulier. Donc, dans l'idéal de l'idéal, on pourrait se dire, bon, bah, c'est juste linéaire, je mesure un flux, je sais combien il y a d'atomes. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que ce qu'on voit, c'est le rayonnement de l'étoile. Et en fait, ce qu'on voit, c'est les parties les plus superficielles de l'étoile, éclairées par les parties les plus internes de l'étoile. Et pour interpréter ces spectres, il faut donc comprendre, en fait, la relation entre pression et température dans les couches externes de l'étoile pour pouvoir faire un modèle qui permet de passer du manque de lumière au nombre d'atomes qui ont créé ce manque de lumière.
Donc en effet, on mesure bien le nombre d'atomes, on arrive à
mesure
mesurer
la quantité. On mesure le nombre d'atomes relatifs.
Avant de revenir sur le chat YouTube, y a-t-il une question, un commentaire dans l'amphithéâtre ? Aucune main se lève pour l'instant. Alors, j'attends un peu, je vous en pose une autre. S'il y en avait une là-haut, je ne l'ai pas vue. Bon, je pose une autre et j'arrive tout de suite. Une question sur le chat également. Tu as un petit peu parlé également du télescope James Webb. Alors, comment est-ce qu'on annonce que le télescope James Webb découvre des galaxies très lointaines ? Il y a d'ailleurs des personnes de l'Institut d'astrophysique de Paris qui contribuent à ces travaux. Tu en as dit quelques mots, mais est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Comment ça va affecter les travaux dont tu as parlé ce soir ?
Donc, je vous ai laissé espérer que le James Webb soit capable de détecter réellement les toutes premières étoiles qui se sont formées. En fait, les toutes premières étoiles, elles ont beau avoir été peut-être grosses et émettre quand même pas mal de lumière, même avec le James Webb, on ne sera pas capable de les détecter individuellement. En revanche, effectivement, ce que fait le James Webb, c'est qu'il voit des galaxies jusqu'à des distances et donc des temps... de retour en arrière extrêmement important. Et il y a toutes sortes de résultats intéressants qui en sortent, en particulier sur le temps caractéristique de mise en place des structures à l'intérieur des galaxies, en particulier à quelle époque est-ce que les disques commencent à exister dans la Voie lactée. Je vous ai dit, on ne s'attend pas à ce que les étoiles les plus primitives soient dans des disques. En fait, c'est parce que ce qu'on voit dans l'univers local, c'est que les disques sont relativement plus jeunes que les parties les plus âgées des galaxies. Par exemple, le disque de notre Voie lactée, il a 7 milliards d'années, alors que notre galaxie, elle en a 13 et des brouettes. Et le James Webb voit aussi, est capable d'estimer statistiquement de manière robuste aussi le temps caractéristique d'assemblage en masse des galaxies. Et ce que voit le James Webb en particulier, c'est qu'il y a des galaxies massives très tôt dans la vie de l'univers, plus tôt que ce qu'on s'imaginait. Donc il y a évidemment un jeu très important de comparaison en fait, entre ce qu'on voit il y a très longtemps dans le passé. Et ce qu'on voit localement sur les populations très anciennes, pour arriver à comprendre si on parle tous bien de la même chose, quoi. Voilà. Donc c'est très important et juste c'est un sujet en fait qui est sujet de conférences scientifiques internationales. Je dirais pas une par mois, mais plusieurs par an en ce moment.
Alors, il y avait une question là, c'est ça?
Bonsoir. Je tiens à vous remercier d'abord pour votre conférence très intéressante, très enrichissante. Moi, je suis Yin Koutouli et je ne suis pas du métier, donc je vais forcément un peu piforter un petit peu. J'ai deux petites questions. La première question, c'est je m'intéresse aussi à la physique quantique et donc je voulais savoir... Est-ce que la physique quantique vous aide à faire des recherches ou vice-versa ? Première question. Deuxième question, c'est que j'ai une difficulté à comprendre la transition entre l'espace et le temps. J'explique. On nous dit que voilà, la Big Bang est à 300 milliards d'années et on entend aussi qu'on envoie des sondes vers le Big Bang. Alors là, je confonds le temps. Le premier, c'est du temps pour moi. Le deuxième, c'est l'espace. Alors, comment concilier les deux ? C'est-à-dire, il est où dans l'espace, enfin, à mon échelle, hein, la naissance de l'univers ? C'est très difficile pour moi. Je vous remercie.
Ben, alors, je vais commencer par la première question. La physique quantique, la physique quantique est à la base de notre compréhension de la physique au niveau microscopique. Et en particulier, quand je parle de l'interprétation des spectres en disant c'est tel élément qui absorbe à telle longueur d'onde, en fait, ça vient de la physique quantique. La physique quantique nous dit qu'un atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Ces électrons, ils sont pas à n'importe quel type d'énergie autour du noyau. Et en fait, les bandes d'absorption qu'on voit correspondent en fait à des transitions entre deux niveaux d'énergie d'électrons qui tournent autour d'atomes. Donc c'est en fait c'est l'application directe du principe de physique quantique. Après, sur la deuxième question, je ne suis pas sûre de complètement comprendre, mais, alors premièrement, l'univers a plutôt 13 milliards d'années que 300 milliards d'années, donc le principe, il est... le schéma que je montrais, il est forcément... c'est un peu une allégorie de ce que c'est que l'univers n'est pas un tube, ce que j'essaie de dire. Donc, on ne peut pas localiser... dans l'espace, là où était le Big Bang il y a 13 milliards d'années, puisque c'est l'espace lui-même, l'univers étant en expansion, l'espace lui-même s'est expandu et on peut pas localiser ça. En revanche, ce qui est clair, c'est que quand on regarde un objet qui est très loin, on le voit très loin dans le temps, simplement parce que la lumière a mis du temps à nous parvenir. Il n'y a pas de mystère à ça. C'est indépendant de la représentation qu'on peut avoir de où se trouve ou ne se trouve pas le Big Bang.
Merci. Une autre question ici.
Bonsoir, je vous remercie pour la conférence, c'était très riche, parfois technique, mais je suppose que c'est le sujet qui le veut. En tout cas, en ce qui me concerne, vous avez réussi à communiquer votre passion pour le domaine. Moi, j'ai une question sur, peut-être naïve, hein, certainement même, sur un point que vous avez soulevé dans la conclusion, c'était l'apport de la connaissance de ces étoiles. Alors, j'ai compris en fait tout le procédé pour les découvrir, hein, c'est pas simple. Alors, c'est des témoins de l'univers, puisqu'elles sont très anciennes, de ce qui s'est passé. Alors, mis à part l'estimation de l'âge de l'univers, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter sur ce qui s'est passé dans l'univers depuis sa naissance ? Ou en tout cas, depuis que ces étoiles sont nées, donc peu de temps après la naissance de l'univers, si j'ai bien compris.
Ouais. C'est une très bonne question, parce que je ne me suis pas beaucoup étendue là-dessus. En fait, les implications, elles sont assez nombreuses dans différents sujets. Il y a peut-être un sujet que je n'ai pas du tout abordé, mais qui est un des sujets de recherche importants. Donc, je vous ai dit que la toute première génération d'étoiles était probablement très massive et donc a disparu depuis très longtemps. Même avec l'instrumentation la plus puissante actuellement, on ne pense pas qu'on va arriver à les observer directement. Donc en fait, les seules indications qu'on a de vérification ou pas de notre théorie que cette première génération était des étoiles massives, c'est de regarder en fait les éléments qui ont été fabriqués par ces étoiles massives et qu'on trouve dans la deuxième génération d'étoiles. Donc en fait, la composition chimique détaillée, en particulier du carbone, de l'oxygène, de l'azote, de certains éléments comme le zinc ou l'aluminium ou certains autres éléments, en fait, nous donne des renseignements sur les réactions nucléaires qu'il y a eu dans ces très grosses étoiles, pour qu'on puisse confirmer ou pas qu'effectivement c'était des très grosses étoiles et qu'on comprend comment elles se sont formées, comment elles ont évolué et qu'est-ce qu'elles ont produit comme éléments. Ça, c'est un pan. Ensuite, il y a un deuxième pan qui est simplement que les étoiles très primitives, dans la galaxie où on les regarde, elles nous montrent en fait comment l'enrichissement en métaux s'est déroulé dans ces phases primitives de la formation des galaxies. Et en fait, c'est les seuls témoins de ça. Et donc, là encore, c'est une façon un peu, je dirais pas détournée, mais disons que c'est du deuxième ordre, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre comment l'enrichissement chimique s'est produit pour comprendre quels étaient les mécanismes dans la galaxie, dans la formation de la galaxie.
Merci. Alors, une autre question qui vient du chat et que je vais compléter. Tu as montré dans ton bonus à la fin des datations, tu as dit que vous obteniez 13 milliards d'années, plus ou moins 4 milliards d'années à peu près. Donc déjà, le premier point, c'est ce qu'il y a des espoirs d'améliorer la précision de ces mesures pour être plus contraignant. Et un autre point là, qui est posé sur le chat, c'est est-ce qu'il y a ce type de datation qui, pour le coup, ne marche pas, remettre en cause l'univers qui a, comme on le sait par d'autres méthodes, 13 milliards d'années. Est-ce qu'il y a des datations qui remettent en cause cela ?
Alors, la deuxième, c'est la plus fastoche. Alors, pour l'instant, non, il n'y a pas de mesures qui remettent en cause l'âge de l'univers. Comme vous avez vu, la précision n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Donc, l'exemple que je vous ai montré date déjà d'il y a quelques années. Je pense que maintenant, on doit en être à... Ça se compte encore par unité. Hein. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 des étoiles pour lesquelles on a une datation avec l'uranium. Et si on combine tout ça, on peut imaginer avoir une précision sur la valeur moyenne entre ces plusieurs étoiles de l'ordre de 2 milliards d'années. Bon, on n'est pas encore très très compétitif avec les datations cosmologiques.
Y a-t-il d'autres questions, commentaires dans la salle ? Oui ?
Alors, encore une fois, merci beaucoup pour cette conférence qui était extrêmement intéressante. Alors moi, j'avais juste une toute petite question sur un détail dont vous avez parlé. Lorsque vous avez montré le tableau de Mendeleïev avec les abondances des différents, des différents éléments et leur origine, vous avez dit qu'il y avait un certain nombre d'éléments, je crois en jaune, qui étaient produits lors de vents solaires d'étoiles peu massives. Est-ce que vous pouvez détailler comment sont produits ces éléments ? Il me semble qu'il y en avait certains qui étaient plus lourds que le fer.
Oui, tout à fait. Alors, attendez, je reviens pour vous montrer. Hop. ici. Donc en effet, parmi les éléments dans les rayures du bas, là, qui sont les éléments les plus lourds, et plus lourds que le fer, il y a du jaune. Et en fait, c'est des éléments qui sont produits par capture de neutrons. C'est quoi le contraire de rapide ? Lente, merci. Les captures de neutrons lentes qui se produisent en fait dans les étoiles qui sont ce qu'on appelle les AGB. Donc c'est des étoiles qui sont dans des phases assez avancées de leur vie, proches de leur fin, où en fait il y a les bonnes conditions de forte densité de neutrons. Qui sont capturés par des noyaux d'éléments comme le fer ou autre, et qui fabriquent ce qu'on appelle, donc, en anglais, c'est le processus S de capture de neutrons, et donc qui fait une partie des éléments les plus lourds. Vous noterez cependant qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout fabriqués par ça. Par exemple, l'europium, c'est un des exemples qu'on voit ici, et tous ceux qui sont vraiment les plus lourds, donc les actinides tout en bas, le thorium, l'uranium, l'actinium, sont pas produits du tout par ce processus-là. En fait, c'est juste ces deux processus qui sont dans des sites astrophysiques très différents, mais qui, d'un point de vue physique nucléaire, sont tous les deux des captures de neutrons. Et ce qui les distingue, c'est la densité de neutrons dans le milieu où ce processus se produit. Soit la densité est suffisamment forte et en fait un noyau va capturer énormément de neutrons avant je ne trouve pas mes mots en français, c'est épouvantable. Decay. Non, décroître, on dit ? Mais non. Se désintégrer, merci, heureusement qu'il y a des Français dans la salle. Hein. Donc soit le noyau va capter beaucoup de neutrons avant de se désintégrer dans un noyau avec plus de protons, soit au contraire, je capture un neutron, je le transforme en proton, je capture un autre neutron, je le transforme en proton. C'est ça les deux processus, et donc ça nécessite des densités de neutrons très différentes.
Merci. Une autre question sur Internet qui est toute simple. Est-on capable de mesurer le nombre d'étoiles d'une galaxie ? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment procède-t-on ?
Alors, je pense que de toutes les comptées, la réponse est non. On est capable de mesurer approximativement le nombre d'étoiles dans une galaxie. Parce que les étoiles en fait se forment avec une distribution en masse qui est relativement bien connue, hein, qu'on appelle l'initial mass function. Et donc en fait, si on est capable de mesurer ou de compter combien il y a d'étoiles les plus massives, les plus brillantes, on peut extrapoler pour jusqu'aux masses les plus petites, les moins brillantes qu'on serait pas capable de compter parce qu'elles sont pas assez brillantes pour calculer le nombre total d'étoiles.
Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Il y en avait une là ou... Oui ?
Bonjour. Déjà, j'ai trouvé très animé, bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai une question un peu bizarre.
J'adore les questions bizarres.
En fait, on voit plein d'étoiles avec des compositions très variées dans la traversée de la galaxie. Et puis, dans les images générales, on a souvent les étoiles plus bleues autour. Alors, est-ce qu'il y a un phénomène, quelque chose qui explique qu'elle soit plus bleue autour et plus... Voilà, je vais m'arrêter là.
Alors, bleu, dans quel sens ? Parce que dans les images que je montrais des simulations, c'est bleu parce que, en fait, le code de couleur, c'est la densité d'étoiles. Donc, bleu, ça veut dire que ce n'est pas très dense. Et rouge, ça veut dire que c'est très dense. Après, dans le dernier film que je montrais, là, les étoiles bleues sont effectivement les étoiles qui sont pauvres en métaux. Et on s'attend aussi à ce qu'elles soient plutôt dans les parties extérieures. Tout dépend du code de couleur qu'on utilise. Si on regarde vraiment la vraie couleur naturelle des étoiles, on s'attend... À quoi on s'attend ? On s'attend plutôt à avoir des étoiles rouges autour et bleues dans le disque à cause de leur âge, en fait. parce que les étoiles les plus massives et les plus bleues sont dans le disque galactique et les étoiles plus vieilles sont plutôt de plus petite masse et donc plus rouges. C'est un peu une approximation de dire ça, mais bon.
On va peut-être prendre une ou deux dernières questions en commentaire pour finir la soirée, tout là-haut.
Bonsoir. Dans le prolongement de l'avant-dernière question, je voulais savoir est-ce qu'on avait une idée dans la vie de la galaxie, dans la vie de la Voie lactée, ces accrétions dont vous parlez, elles représentent combien de galaxies ont fusionné avec la Voie lactée? Et si j'ai bien compris, je crois qu'Andromède devrait fusionner un jour ou l'autre avec la Voie lactée. Comment les choses vont se passer, à votre avis ?
Mal. Mais on ne sait pas pour qui. On ne sait pas si ça va se passer mal pour Andromède ou mal pour nous. Alors sur le nombre total de petites galaxies qui ont été accrétées, ça se compte certainement en centaines. Qu'on ait identifié individuellement, je ne pense pas qu'on soit encore à un nombre aussi grand, je n'ai pas essayé de compter, on en est certainement à des dizaines qui sont identifiées, soit parce qu'elles sont encore spatialement visibles, soit parce qu'on les reconnaît d'après la vitesse des étoiles et leur composition chimique. Celle qu'on connaît particulièrement bien, c'est l'accrétion de la galaxie du Sagittaire, pour laquelle on voit encore les parties centrales de la galaxie du Sagittaire et on voit le courant d'étoiles qui est accrété autour de notre Voie lactée. Tout ça, ce sont des petites galaxies, c'est-à-dire que la Voie lactée, c'est le centre de masse et on accrète des petites choses. La Voie lactée n'est pas une galaxie qui a une histoire particulièrement riche en accrétion. Au contraire, la Voie lactée fait plutôt partie des galaxies qui ont eu très peu d'accrétions récentes ou très peu d'accrétions importantes, donc majeures, quoi, plus qu'un dixième de la masse de la Voie lactée. Donc, ça donne tout de suite une première réponse à la question d'après, qui est alors Andromède. Donc Andromède, c'est la grosse galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée. Nos deux galaxies sont en train de se rapprocher, donc d'ici 5 milliards d'années ou par là, on sera en train de commencer à se mélanger, à devenir une seule galaxie probablement. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années récentes, les estimations de masse de la Voie lactée et d'Andromède ont un peu changé. On pensait qu'Andromède est plus lumineuse en termes de nombre d'étoiles, de lumière qui est émise par Andromède. Andromède est plus lumineuse que la Voie lactée. Le trou noir central d'Andromède est 10 fois plus gros que celui de la Voie lactée. Donc c'est quand même plutôt une galaxie costaud. Et en fait, quand on regarde la masse totale déterminée d'après la gravitation qui est dans chacune de ces deux galaxies, en fait, on pense maintenant que la Voie lactée est plus massive qu'Andromède. Et en tout cas, il n'y a pas un facteur 10 entre les deux. Hein, c'est en gros deux galaxies du même ordre qui vont se tamponner et qui vont faire un gros feu d'artifice. Mais dans 5 milliards d'années, hein. D'ici là, je pense que notre Soleil il va commencer à avoir du mal aussi et tout ça, donc ça devrait aller.
Ou pas. Donc, ou ça pas. Aller ou pas, ouais. Y a-t-il une dernière question, un dernier commentaire dans la salle ?
Bonsoir, merci pour cette conférence. C'est la première fois que je viens donc ici. Et pour moi, c'est un grand plaisir de rencontrer tous ces domaines qui nous font rêver, je pense un peu... Hein. La question que je me posais par rapport à vos recherches, est-ce que dans vos analyses et vos paramètres, même philosophiques, si on peut dire, est-ce que quand on voit l'univers, on se dit, est-ce que c'est infini ou fini ? Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans vos réflexions personnelles ? Scientifique et personnel.
Alors personnel, non, pas vraiment. Et puis même scientifique, pas directement non plus. C'est pas quelque chose qui est très prégnant dans le type de recherche que je mène.
Alors, je vais poser une dernière question qui vient du chat. Quelle est l'étoile la plus vieille et la plus brillante visible ? Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais en tout cas, les étoiles très vieilles dont tu as parlé, est-ce qu'on a un espoir d'en voir à l'œil nu ? Peut-être pas, mais à quel point elles peuvent être brillantes ? Est-ce que vraiment c'est inaccessible pour un astronome amateur qui observe le ciel comme cela ?
Non, c'est pas du tout inaccessible pour un astronome amateur. Je crois que l'étoile à un millième de la métallicité solaire la plus brillante, elle doit être à une magnitude même pas 10. Donc c'est pas complètement en dehors des clous. Et il y a même des étoiles plus brillantes que ça à un centième de la métallicité solaire, plutôt à magnitude 6-7.
Donc à l'œil nu, c'est un peu limite, mais avec des jumelles et encore plus un petit télescope, on peut les observer.
Voilà, petit télescope, voilà. C'est faisable. Après, c'est pas très très rigolo, hein, c'est une étoile, quoi.
Ah, mais je peux comprendre l'émotion de regarder avec ses yeux une étoile dont on se dit qu'elle a été créée très peu de temps après le Big Bang. J'aimerais bien faire ça un jour. Donc je remercie la personne.
Je te donnerai des coordonnées.
C'est noté. Je remercie la personne qui a posé cette question. Eh bien, je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Merci à vous tous d'être venus. Merci à Audrey pour la prise de vue, à Fred pour la réalisation, à Patrick pour ton introduction. Donc à vous tous d'être venus et de nous avoir suivis sur Internet. On se retrouve le 5 mars prochain avec Gérard Mourou. Et puis, merci à toi, Vanessa. Bonsoir.
Merci beaucoup.